Chapitre 56.
Non, non et non,
dit Richard à du chahut.
Furieuse, la femme esprit croisa les bras sur son ventre de plus en plus rond. Malgré son regard assassin, elle avait l'air presque comique en adoptant cette posture.
« Comprends-moi, » continua Richard d'un ton plus bas.
« N'ai-je pas le droit d'être un peu seul avec ma femme, Callan? S'il te plaît, accorde-nous un petit moment de tranquillité. »
La Bacata Humana se radoucit quelque peu.
« je vois. Tu veux avoir un peu d'intimité avec ton autre épouse? Une très bonne idée, surtout après si longtemps. »«
Ce n'est pas... » commença Richard.
Puis il comprit vraiment ce qu'avait dit du chahut.
« Et qu'en sais-tu de toute façon ?»
La femme esprit éluda la question.
« Très bien, je suis d'accord, »
dit-elle avec un petit sourire,
« à condition que tu ne sois pas trop long. »
Richard eut envie de répondre que ça prendrait le temps qu'il faudrait, mais il s'en abstint, conscient de l'ambiguïté de cette phrase. «
Nous reviendrons vite, c'est juré. »
Le capitaine Meffert, le grand daron blond qui commandait le détachement de 1000 hommes, détestait autant que du chahut l'idée que le seigneur Râle et la mère inquisitrice partent en vadrouille sans escorte. En bon militaire, il exprimait cependant ses objections avec plus de diplomatie. À l'évidence, le général Raibich lui avait dit que ce seigneur-là était prêt à écouter ses officiers et qu'il ne les punissait pas quand leurs propos lui déplaisaient.
« Seigneur Râle, si vous avez besoin d'aide, nous serons trop loin pour intervenir. »
Pris d'une inspiration, Meffert ajouta un argument qu'il espérait décisif.
« Et si la mère inquisitrice était en danger ?»«
Merci de votre sollicitude, capitaine. Un seul chemin mène là où nous allons. Puisque nous venons de prendre la décision de faire cette excursion, personne ne peut nous attendre là-haut. Ce n'est pas très loin et nous serons de retour très vite. En patrouillant ici, vos hommes et vous assurerez notre sécurité.
« Bien, seigneur, » capitula l'officier.
Il partit donner des ordres à ses hommes. Avec le dispositif de quadrillage qu'il mettrait en place, le sourcier et sa compagne n'auraient vraiment rien à craindre. Richard se tourna vers les deux messagers envoyés par le général Raibich.
« Dis au général que je suis content qu'il avance si vite. S'il arrive avant Jagang, nous serons dans une situation idéale. Ajoutez que mes ordres n'ont pas changé, pour le moment, qu'il évite de se faire repérer. »
Chaque jour ou presque, des estafettes traversaient la frontière, jamais par le même poste, une précaution élémentaire, pour donner au seigneur Râle la position des forces de Raibich. Richard voulait que ses renforts restent au nord, hors de vue des éclaireurs, des sentinelles et des espions de Jagang. En cas de combat, la surprise serait le meilleur atout de l'armée d'Aran. Le général était d'accord sur le principe, mais il n'aimait pas beaucoup savoir son seigneur seul avec un petit détachement au milieu d'un territoire potentiellement hostile. Dans ses messages, le sourcier avait expliqué à Raibich que cette stratégie était la seule possible. Il avait également décrit en détail ce qui attendait les soldats d'Aran s'ils tentaient de franchir sans autorisation la ligne de Dominique Dörtsch. Tant que le peuple d'Andérite n'aurait pas voté, l'armée ne devait pas approcher de la frontière. Richard se méfiait du ministre Schanbourg. Le langage fleuri de cet homme lui déplaisait. Pour dire la vérité, il n'y avait pas besoin de circonlocution raffinée. Pour mentir, en revanche... Les Dominique Dörtsch étaient une toile d'araignée où tous les imprudents risquaient de s'engluer. Avec son allure inoffensive, la frontière andérienne pouvait se transformer en un piège mortel. Richard refusait que des milliers de soldats soient réduits en bouillie dans la plaine, d'autant plus que ce sacrifice serait inutile. D'innombrables morts et les Dominique Dörtsch toujours aussi infranchissables. Raibich avait répondu à son seigneur. Dès qu'il serait en position au nord, comme convenu, un seul mot de Richard suffirait pour qu'il galope à bride abattue vers le sud. Mais tant que cet ordre ne viendrait pas, il promettait de ne pas bouger.
« Seigneur Râle, » dit le plus grand des deux messagers, « je répéterai vos paroles au général. »
Les deux darans sautèrent en selle et repartirent sans avoir pris le temps de se reposer. Avant d'enfourcher son cheval, Richard s'assura que son arc et son carquois étaient bien en place sur sa selle. Alors qu'il s'engageait sur la piste, Callan fit à son mari le sourire qu'elle lui réservait exclusivement. Elle aussi était soulagée qu'il soit enfin seul, même si ça ne durait pas très longtemps. Avoir sans cesse du monde autour de soi était épuisant. Dès qu'ils se tenaient la main en public, tous les regards se braquaient sur eux.
À l'expression des gens, Richard aurait pu prédire que cette nouvelle se répandrait comme une traînée de poudre les jours suivants, et qu'on en parlerait encore des années plus tard. Au moins, c'était un sujet de commérage des plus inoffensifs. Tant qu'on potinait sur la vie privée du seigneur Hall et de la mère inquisitrice, on ne pensait pas à inventer des horreurs au sujet de leurs ambitions politiques. Richard admira Callan, bien droite sur sa selle. Les courbes de son corps étaient vraiment époustouflantes. Chaque jour, il s'émerveillait qu'une femme pareille soit tombée amoureuse d'un simple guide forestier venu du fin fond de terre d'ouest. Richard avait le mal du pays, et le décor environnant l'exacerbait. Chez lui, certains endroits ressemblaient à s'y méprendre à la contrée qu'il traversait. Il aurait tant aimé faire découvrir sa région natale à Callan. Depuis son départ de Heartland, l'automne précédent, il avait vu bien des choses remarquables. Mais rien n'égalait jamais le lieu où on avait grandi. Alors que le chemin de terre longeait un précipice, il tourna la tête vers le nord-ouest et sonda l'horizon entre les pointes de deux pics. Voilà des mois qu'il n'avait pas été aussi près de chez lui. Au début de leurs aventures, Callan et lui avaient voyagé dans ces mêmes montagnes pour gagner les contrées du milieu. À l'époque, ils avaient dû traverser la frontière magique qui s'était écroulée depuis. Pour cela, ils avaient emprunté le passage du roi, et cet endroit n'était pas très loin d'Anderith non plus. Mais si près de terre d'ouest qu'il fût, ce havre de paix lui resterait inaccessible tant qu'il sentirait peser sur ses épaules le fardeau des responsabilités. En plus de ce qu'impliquait le simple fait d'être le seigneur Hall, il y avait Jagang, prêt à réduire le nouveau monde en esclavage après avoir refermé son poing d'acier sur l'ancien. Pour résister à cet adversaire, les contrées et Dara avaient besoin de lui. Grâce au lien, il neutralisait le pouvoir de l'empereur, au moins pour les Darans et tous ceux qui lui juraient allégeance, et sa persuasion était indispensable afin de forger l'alliance capable de venir à bout de l'ordre impérial. Parfois, Richard avait l'impression de vivre par erreur l'existence d'un autre. Un jour, pensait-il, les gens éventraient la supercherie et diraient « Ce seigneur Hall qui prétend tout savoir n'est qu'un vulgaire guide forestier, et c'est ce type-là que nous écoutons, que nous avons choisi comme chef de guerre ?» En plus de tout, il y avait les Carillon. Callan et lui étaient directement responsables de leur intrusion dans le monde des vivants. Même si ce n'était pas intentionnel, ils étaient coupables de la catastrophe qui frappait la magie et aurait des conséquences sur toutes les créatures vivantes. En sillonnant Anderith, ils avaient entendu des dizaines de récits sur des morts étranges. Les Carillon profitaient de leur séjour dans le monde des vivants, et tuer des innocents les amusait beaucoup. Face au danger, bien des gens revenaient à leurs antiques superstitions. Dans certaines régions, ils se réunissaient pour implorer la pitié des démons lâchés sur leur univers. Dans les clairières et les champs en jachère, des paysans apeurés déposaient des offrandes, se privant ainsi du peu de nourriture dont ils disposaient. Convaincus que l'heure d'expier sa corruption avait sonné pour l'humanité, des illuminés prétendaient que le Créateur avait chargé des esprits vengeurs de châtier les pécheurs. Certains paysans laissaient en guise de présent des piles de pierres au milieu des routes et des carrefours où ils édifiaient de véritables petits cairns. Personne n'avait pu expliquer à Richard les raisons de ce rituel. Et ces questions avaient visiblement déplu à ses interlocuteurs, indignés qu'il ose s'interroger sur d'antiques coutumes. À minuit, beaucoup de fermiers et même quelques citadins jetaient des bouquets de fleurs séchées devant leurs portes, et comme toujours dans ces cas-là, le marché des gris-gris et des amulettes prospérait. Les Carillon tuaient quand même. Sans Callan, Richard aurait sans doute déjà baissé les bras. Grâce à elle, il trouvait la force de continuer à lutter. Pour cette femme, il aurait supporté n'importe quoi.
« C'est juste là-haut, » annonça-t-elle un bras tendu.
Les deux jeunes gens mirent pied à terre. Comme souvent aux abords d'un lac, il y avait surtout des épicéas et des pins aux alentours. Quand il eut repéré un jeune bouleau à feuilles argentées, le sourcier attacha leurs chevaux à une branche basse. Si on ne voulait pas que les brides soient poisseuses, il valait mieux éviter les pins, les épicéas et surtout les basalmiers. Quand il entendit un hennissement, Richard tourna brusquement la tête. À quelques pas de là, un cheval, une jument, semblait-il, les regardait. De l'herbe pendait de chaque côté de sa bouche, mais la bête avait arrêté de mâcher.
« Bonjour, gentille fille !» lança le sorcier.
Méfiante, la jument recula.
Richard tenta de l'approcher, mais elle maintint la distance qui les séparait. Sur sa croupe blanc cassé, une tache noire rappelait étrangement des pattes d'araignée. Voyant que Richard continuait d'avancer, elle fit demi-tour et détala.
« Je me demande ce qu'elle fichait là, » dit le sourcier à Callan.
L'inquisitrice tendit la main et Richard la prit dans la sienne.
« Je n'en sais rien, elle a peut-être échappé à son maître. En tout cas, notre compagnie ne semblait pas l'intéresser. »«
On dirait bien, oui. »«
C'est le seul chemin, »
annonça Callan en guidant son mari le long de la berge du lac.
Alors qu'il contournait un bosquet d'épicéas, Richard leva les yeux et constata que le soleil parvenait enfin à percer la chape de nuages. Les eaux scintillaient quand ils s'engagèrent sur une avancée rocheuse qui formait une presqu'île miniature. En face d'eux, sur l'autre berge du lac, une cascade dévalait le flanc d'une imposante muraille rocheuse. Richard eut le cœur serré devant la beauté de ce paysage qui lui rappelait tant sa chère forêt.
« C'est là, »
dit Callan.
« Là-haut s'étendent les terres désolées où pousse le paca et où vivent les papillons gambites. L'onde si pure que nous admirons vient de cette zone empoisonnée. »
« C'est merveilleux, et je pourrais rester ici jusqu'à la fin des temps. »«
Callan, si nous avions le temps, je te montrerais comment trouver des pistes là où il semble ne pas y en avoir. »
Main dans la main, les deux jeunes gens contemplèrent un moment le spectacle majestueux de la nature.
« Richard, » murmura Callan, « il faut que je te dise quelque chose. Ces deux dernières semaines, en t'écoutant parler aux gens, j'ai été tellement fier de toi. » Tu sais si bien instiller l'espoir dans leur cœur. Quoi qu'il arrive, n'oublie jamais que tu as donné le meilleur de toi-même.
On dirait que tu doutes de notre victoire.
Le résultat ne compte pas. Nous verrons bien, mais garde à l'esprit que les gens ne prennent pas toujours les bonnes décisions. Parfois, ils ne savent pas reconnaître le mal.
Et il arrive aussi qu'ils le choisissent parce qu'ils sont effrayés ou parce qu'ils croient pouvoir en tirer des avantages.
L'essentiel, c'est de savoir que nous avons fait de notre mieux. Tu as dit la vérité aux Andériens, et si nous gagnons, ce sera pour de bonnes raisons. En somme, tu leur as donné l'occasion de prouver ce qu'ils valent vraiment.
« Nous gagnerons, » assura Richard. « La vérité triomphe toujours. »«
Je l'espère. »
Richard passa un bras autour du cou de Callan et lui posa un baiser sur le front.
« Tu sais, » dit-il, « à l'ouest de la ville où j'ai grandi, il y a des endroits au cœur des montagnes que je dois être le seul à avoir vus. Des chutes d'eau bien plus vertigineuses que celles-là où brillent des arcs-en-ciel l'après-midi. Et si on nage bien, on peut contourner les rochers et voir le monde à travers un rideau liquide. J'ai souvent rêvé de te montrer ça.
« Un jour, Richard, »
souffla Callan en passant un bras autour de la taille de son mari,
« ton rêve se réalisera. »
Bien qu'il n'en eût aucune envie, le sourcier brisa le charme de ce moment de tendresse hors du temps et de l'espace.
D'où vient ce nom, la fournaise?
Derrière la cascade, il y a une grotte où il fait chaud, très chaud même, à ce qu'on dit.
Je me demande pourquoi Anders s'y intéressait.
Peut-être parce qu'il appréciait les beaux paysages?
Les tyrans aussi ont des jardins secrets.
C'est possible,
murmura Richard. Mais il en doutait. Le sorcier devait avoir eu une autre raison de trouver ce lieu fascinant. En lisant ces textes, on pouvait difficilement le prendre pour un esthète sensible aux beautés de la nature, car s'il les évoquait souvent, c'était toujours en rapport avec la fondation de sa société idéale.
Le sourcier nota que la roche, sur toutes les montagnes environnantes, était d'une couleur gris-vert très inhabituelle, sauf sur la muraille que dévalaient les eaux, où elle était plus sombre, sans doute parce que le granit à cet endroit était tacheté de noir, mais à cette distance on ne pouvait pas en être sûr.
Il tendit le bras vers la muraille.
« Étudie la roche et dis-moi ce que tu en penses. »
Avec sa robe blanche qui brillait au soleil, Callan ressemblait plus à un esprit du bien incarné qu'à une femme de chair et d'os. Et pourtant, il savait à quel point elle vibrait de vie et de désir.
« Que veux-tu dire? C'est de la roche, rien de plus. »
« Je sais, mais regarde-la bien. »
« Rien ne te frappe ?»«
Eh bien... » « C'est une montagne de roches.
S'il te plaît, sois sérieuse. »
Callan soupira et observa attentivement la falaise, puis elle tourna la tête vers la montagne la plus proche.
« On dirait qu'elle est plus sombre que celle des pics. »«
Très bien observé. »« Et il n'y a rien d'autre ? » ?»«
Ce n'est pas une couleur courante. Pourtant, il me semble l'avoir déjà vue. »
L'inquisitrice sursauta.
« Les Domini Dirch. »
Ouais, j'en suis arrivé à la même conclusion.
« Les Domini Dirch sont identiques à la roche de cette falaise, qui ne ressemble à aucune autre montagne des environs. Tu penses qu'elles ont été taillées dans cette roche, puis transportées jusqu'à la frontière? C'est difficile à imaginer. »
« Je sais, mais ça doit être possible, je suppose. Bien sûr, je ne suis pas un expert en matière de transport de pierre. En tout cas, la Domini Dirch que nous avons vue semblait taillée dans la masse, pas composée de plusieurs blocs.
Et tu en tires quelle conclusion ?»«
Joseph Ander était un sorcier. À son époque, les hommes comme lui pouvaient réaliser des exploits que Zed lui-même trouverait stupéfiants.
Ander a peut-être utilisé cette falaise comme point de départ. »
« Que veux-tu dire? Comment s'y serait-il pris ?»« Désolé, mais j'ignore la réponse. En magie, tu es beaucoup plus calé que moi. Cela dit, il a dû prélever de petits fragments de roche, un pour chaque Domini Dirch, et les faire grandir plus tard. »«
Grandir ? » ?»«
Quelque chose comme ça, oui. Avec son pouvoir. Par exemple, en reproduisant à l'infini les grains de ses fragments. Ça paraît faisable avec la magie additive. »
« Je m'attendais à une hypothèse farfelue. Mais ta théorie se tient d'après mes connaissances limitées. »
Richard fut soulagé de ne pas s'être ridiculisé. « Je vais nager jusqu'à la grotte et jeter un coup d'œil à ce qu'elle contient. »
« Rien, selon ce que j'ai entendu. Il y fait chaud, c'est tout, et elle n'est pas très profonde, peut-être 20 pieds.
Je ne suis pas un grand amateur de cavernes, mais je crois qu'une exploration s'impose. » Le sourcier enleva sa chemise et se tourna vers l'eau.
« Tu ne retires pas ton pantalon ?»
lui demanda Callan.
« J'espérais le débarrasser de l'odeur de crottin. »«
Dommage !» soupira l'inquisitrice, comme si elle était vraiment déçue. Richard sourit et se prépara à plonger.
Une seconde avant qu'il bascule dans l'eau, un corbeau piqua sur lui et il dut baisser la tête pour éviter d'être blessé.
Les bras tendus dans son dos, le sourcier fit reculer Callan jusqu'à ce qu'il soit revenu sur la berge. Alors que les échos de ses croassements hystériques se répercutaient dans les montagnes, le corbeau piqua de nouveau sur la tête du sourcier, qu'il rata de peu. Puis, il reprit de l'altitude et tourna en rond au-dessus des jeunes gens. On aurait juré qu'il avait tout fait pour les éloigner de l'eau.
« Tu crois que cet oiseau est fou ?»
demanda Callan.
« Ou qu'il veut protéger son nid ? À moins que tous les corbeaux se comportent comme ça ?»«
Ce sont des oiseaux intelligents. » répondit Richard en tirant sa femme à l'abri des arbres. « Ils défendent leur nid, tu as raison, mais ils peuvent aussi faire des choses étranges. Cela dit, j'ai peur que celui-là soit beaucoup plus qu'un simple corbeau. »«
Comment ça, beaucoup plus ?»
L'oiseau s'était posé sur une branche où il ébouriffait ses plumes noires, l'air très content de lui. Callan tendit sa chemise à Richard, qui la prit, mais ne fit pas mine de l'enfiler.
« Pour moi, c'est un carillon. »
Malgré la distance, l'oiseau sembla l'avoir entendu et il battit des ailes comme si cette affirmation l'indignait.
« Tu te souviens, à la bibliothèque ?»
continua Richard. « L'oiseau que Dame Firkin combattait ?»«
Par les esprits du bien. Tu penses que c'est le même et qu'il nous a suivis ?»«
Si c'est un carillon, pourquoi pas ?»«
Que faut-il faire ?»
souffla Callan, plus effrayé que Richard ne l'avait jamais vu. Dès qu'ils atteignirent leurs chevaux, le sourcier décrocha l'arc de sa selle, puis il tira de son carquois une flèche à tête en fer.
« Je vais le tuer, si c'est possible. »
Dès qu'il aperçut l'arc que tenait Richard, le corbeau s'envola en croissant de surprise, comme s'il n'avait pas prévu que l'humain songe à recourir à une arme. Avant que le sourcier ait pu tirer, sa cible disparut dans le ciel.
« Voilà qui est étrange. »
« En tout cas, » dit Callan, « ça prouve qu'il s'agit bien d'un carillon. »
« Le faux poulet que tu as blessé chez les hommes d'Adobe a dû avertir les autres. »«
Ouais, tu dois avoir raison. »«
Richard, je ne veux pas que tu nages dans ce lac. Un autre carillon peut s'y tapir. »«
C'est vrai, mais il semble avoir eu peur de moi. »«
Et s'il joue à la comédie pour endormir ta méfiance et t'attirer dans ses eaux ?»« Zed nous a dit de rester loin de l'élément liquide. »
Callan se massa les bras comme si elle était gelée.
« Partons d'ici, je t'en prie, cet endroit me fait frissonner. »
Richard enfila sa chemise et entreprit de la boutonner.
« Tu as encore raison.
Ne poussons pas trop notre chance après avoir échappé à un corbeau qui n'en est pas un. Si nous nous faisons tuer,
Du Chaillus sera si furieuse qu'elle accouchera avant terme. »
Une étrange lueur dans le regard, Callan saisit à deux mains les pans de la chemise du sourcier.
« Richard, tu ne crois pas que nous pourrions... »
La jeune femme ne finit pas sa phrase.
« Que nous pourrions, quoi ?»
demanda son mari. Callan lâcha sa chemise et lui tapota la poitrine.
« Partir d'ici ?»«
Selon moi, nous le devons. »
Richard aida l'inquisitrice à monter en selle, puis il l'imita prestement.
« Cette excursion n'aura pas été inutile, » dit-il. « Nous avons trouvé la roche dont sont faites les Domini Dirch, et ça m'incite à modifier nos plans. »«
De quelle façon ?»«
Nous allons retourner à Fairfield et revoir tous ces vieux livres à la lumière de ce que nous avons appris. »«
Et le scrutin ? Il nous reste des gens à convaincre. »
« Les soldats s'en chargeront. Puis ils surveilleront le vote et le compte des voix. Ensuite, ils viendront nous communiquer le résultat. Les hommes qui nous accompagnaient nous ont assez souvent entendus pour s'en sortir à merveille. Nous les diviserons et les enverrons en mission dès que nous les aurons rejoints. Et puis nous reprendrons le chemin du domaine de Chanbourg. Ainsi, nous agirons sur les deux tableaux.
Les carillons sont la priorité, tu as raison.
S'ils tuent tout le monde, le résultat du scrutin n'aura plus aucune importance. »
Soudain, quelque chose attira l'attention de Richard. Après avoir confié les rênes de sa monture à Callan, il sauta à terre et se dirigea vers le bosquet d'épicéa.
« Que t'arrive-t-il ? »
lança l'inquisitrice.
« J'ai trouvé une selle, dissimulée sous des branches afin qu'elle reste au sec. »«
C'est probablement celle de la jument. »«
Elle doit appartenir à un trappeur, » avança Richard. « Mais elle semble être là depuis un moment. »
« Sauf si tu as envie de détrousser un pauvre bougre, je suggère que nous fichions le camp d'ici. »
Entendant un croassement de corbeaux dans le lointain, Richard jugea plus prudent de retourner vers son cheval.
« C'est quand même étrange, » marmonna-t-il en l'enfourchant. Quand ils furent sur la piste, il jeta un coup d'œil derrière lui. Plusieurs corbeaux tournaient en rond très haut dans le ciel. Bien entendu, il ne put pas reconnaître celui qui n'avait rien d'un véritable oiseau. Et d'ailleurs, ils étaient peut-être tous possédés.
Prudent, Richard ne refixa pas l'arc à sa selle, mais le passa à son épaule.